Marcel !
En être ou ne pas en être ?
Je cessais au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
En être ou ne pas en être. C'est en ces termes que Robert de Saint-Loup, l'ami du narrateur, désigne le salon des Verdurins au chapitre 3 de Sodome et Gomorre. Ce salon, cette secte, comme il l'appelle, il ne souhaite pas y appartenir, il ne souhaite surtout pas y être introduit. Saint-Loup s'oppose ainsi au narrateur et au baron de Charlus, qui font partie de ce cercle mondain et qui répondent à toutes ses invitations. Il y aurait donc deux possibilités de se comporter dans le monde pour l'auteur. Il suffit juste de choisir son clan. Cela paraît simple pour les personnages d'à la recherche du temps perdu, cela l'a moins été peut-être pour Marcel Proust lui-même qui a porté toute sa vie et qui porte encore la question de son identité sociale. Juif et catholique, solitaire et mondain, romancier et un peu philosophe, Proust est soumis dans tous les domaines de sa vie à cette dualité, à ce clivage qu'il n'a cessé de fuir. Alors que cela révèle-t-il de lui, de l'image que nous nous faisons de lui aujourd'hui ? Julia Kristeva, qui est avec nous depuis le début de cette semaine consacrée à l'imaginaire proustien, nous fera part de ses hypothèses.
Il y a cet élément très important ici à Combray, c'est que Combray, c'était le lieu de sa famille paternelle, et par conséquent, c'est par là qu'il avait une sorte d'enracinement dans la France ancestrale, dans la France séculaire. C'est par là qu'il était entièrement français et même socialement petit bourgeois, car c'est une famille qui n'a pas été d'emblée une famille bourgeoise.
Et toute petite bourgeoisie.
Toute petite bourgeoisie, c'est le père lui-même. Le père de Proust est devenu un bourgeois, mais c'était une promotion très récente. Et donc à ce moment-là, Combray, en tant que lieu à la fois français et petit bourgeois, s'oppose dans toute l'œuvre au Paris, qui est un Paris mondain de grande bourgeoisie, d'aristocratie, et aussi de juiverie aussi. Il faut dire les choses comme elles sont.
La famille de sa mère.
La famille de sa mère. Alors il y a là ces deux côtés,
n'est-ce pas,
la mère et le père.
Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Alors Roland Barthes parlait à l'instant d'un certain clivage de Proust et qu'on retrouve un petit peu aussi dans la recherche, donc l'enracinement de Combray, la petite bourgeoisie, mais aussi le Paris mondain et aristocrate. Il parlait également de ses origines juives. Donc on va voir que ce clivage, il se retrouve à plusieurs niveaux et il vous intéresse particulièrement. Vous en avez parlé notamment dans un article paru dans la NRF en mars dernier.
Oui, cet article reprend tout simplement plusieurs pages dans le livre Le Temps Sensible, parce qu'on ne peut pas parler de Proust et de ses conflits, de ses souffrances, de son intégration, de sa force, sans toucher à cette question qui est sa double appartenance. Il est né d'une mère juive et d'un père catholique, enfant fragile, qui naît pendant la Commune et qui, pendant toute sa vie, a essayé de ne pas appartenir. La phrase qu'on a vue tout à l'heure, « en être ou ne pas en être », est une manière ironique pour lui de fustiger la société française selon laquelle, comme il le pense, il faut appartenir pour vivre. Sans appartenance, il n'y a pas de salut. Il dit même de manière plus claire, et Hannah Arendt va reprendre cela de lui, que alors que Hamlet pense que le grand dilemme, c'est être et ne pas être, les Français ont transformé ça en être et ne pas en être. Être juif ou homosexuel, ou chez les Verdurins, ou à telle ou telle secte au salon. Et lui, toute sa vie consistait à ne pas éviter cette appartenance, parce que sans cela, il ne pourrait pas vivre dans son temps. C'est aussi quelqu'un qui est très à l'affût de problèmes sociaux. On peut parler peut-être tout à l'heure un peu de l'affaire Dreyfus, à laquelle il a été très sensible aussi, etc. Donc c'est impliqué souvent. La Première Guerre mondiale le touche énormément, les déclins de la bourgeoisie, de l'aristocratie surtout. Donc il est très dans la société, très attentif à l'opinion, et en même temps ne pas appartenir, ne pas en être, être à la périphérie, et à chaque fois exprimer une vigilance extrême par rapport à tous les enfermements clanique, communautariste, comme on dirait aujourd'hui.
Alors commençons par la double origine de Proust, juive et chrétienne. Dans la recherche, cela se traduit d'abord par la mention assez fréquente de l'affaire Dreyfus et de comment on en parle dans les salons. Il y a les Dreyfusards, il y a les anti-Dreyfusards. Il y a une part vraiment très importante autour de la politique dans le roman, et c'est peut-être une manière pour Proust d'affirmer son intérêt pour cette affaire.
Oui, Proust écrit dans une lettre « Je crois bien avoir été le premier Dreyfusard, puisque c'est moi qui suis allé demander sa signature à Anatole France ». Donc, en effet, avec ses amis Jacques Bizet, Robert de Flers, Léon Yetman, Louis de La Salle et les deux frères Lévy, Proust a organisé le manifeste des 104, qui, au bout d'un mois, comptait 3000 signatures. Donc, il était absolument engagé contre tous ceux qui voulaient condamner Dreyfus. Et il sera très vite déçu. Il finira par se détacher de l'affaire en disant que, pour un écrivain, il ne faut pas s'engager d'une certaine manière. Et il était très choqué par le fait que, y compris ces Dreyfusards, les siens, pouvaient être corrompus, pouvaient être extrêmement partiaux et ne pas tenir compte du point de vue des autres. Tout dogmatisme lui répugnait.
Donc il s'en est éloigné.
Il s'en est éloigné. Et surtout, un certain anticléricalisme de son parti à lui, qui voulait fermer les cathédrales. Il écrit ce texte magnifique et qu'il faudrait revoir aujourd'hui, quand il y a ces heures des religions et toutes les communautés se sentent incomprises. Il dit « Supposons un jour les cathédrales fermées ». Donc, il était absolument agnostique et très satirique aussi par rapport à toute crédulité, mais il ne voulait pas couper la mémoire qui constitue cette culture de Combray, Illier, dont il fait partie. Et une culture qu'il ne veut pas fuir, mais il veut être en compétition avec elle. Et on l'imagine vouloir écrire un roman qui fera mieux que les orgues et les rosaces. Proposer un art qui dépasse l'art chrétien.
Un été avec Proust. Julia Kristeva. Laura Elmaki.
Alors cette fascination pour le catholicisme, elle est assez présente dans la recherche, notamment au début, dans la première partie de Du côté de chez Swann, dans Combray, où il se balade dans les rues de Combray et il tombe sur cette fameuse église. Je vous propose d'écouter André Dusselier qui nous lit un extrait de ce passage quand le narrateur justement s'émerveille devant ce bâtiment.
Un jour, au détour d'une petite rue provinciale, j'aperçus en face du croisement de trois ruelles une muraille fruste et surélevée, avec des verrières percées en haut et offrant le même aspect asymétrique que l'abside de Combray. Alors je ne me suis pas demandé, comme à Chartres ou à Reims, avec quelle puissance y était exprimé le sentiment religieux, mais je me suis involontairement écrié « l'Église ». L'Église. Familière. Mitoyenne, rue Saint-Hilaire, où était sa porte nord, de ses deux voisines, la pharmacie de M. Rapin et la maison de Mme Loiseau, qu'elle touchait sans aucune séparation. Simple citoyenne de Combray qui aurait pu avoir son numéro dans la rue, si les rues de Combray avaient eu des numéros, et où il semble que le facteur aurait dû s'arrêter le matin quand il faisait sa distribution, avant d'entrer chez Mme Loiseau et en sortant de chez M. Rapin. Il y avait pourtant entre elle et tout ce qui n'était pas elle une démarcation que mon esprit n'a jamais pu arriver à franchir. Mme Loiseau avait beau avoir à sa fenêtre des fuchsias qui prenaient la mauvaise habitude de laisser leurs branches courir toujours partout tête baissée, et dont les fleurs n'avaient rien de plus pressé, quand elles étaient assez grandes, que d'aller rafraîchir leurs joues violettes et congestionnées contre la sombre façade de l'église, les fuchsias ne devenaient pas sacrés pour cela, pour moi. Entre les fleurs et la pierre noircie sur laquelle elles s'appuyaient, si mes yeux ne percevaient pas d'intervalle, mon esprit réservait un abîme.
Julia Kristeva, dans ce texte, on voit bien ce plaisir qu'a le narrateur de regarder cette belle église. Qu'est-ce que cela révèle? C'est très présent, il y a le côté de mes églises, il y a la fin, il cite la cathédrale pour la comparer à son roman. Vraiment, dans le vocabulaire même du livre, il revient toujours à ces mots liés à la religion.
Oui, il était fasciné par l'art chrétien, que ce soit l'art gothique des cathédrales ou Venise d'une autre façon, plus renaissante, plus baroque. Et tout en voulant s'en détacher pour faire quelque chose de différent, il était de ceux qui, avant nous, avait compris qu'on ne peut pas s'en détacher sans les connaître à fond. Et sa fascination, y compris pour les paysannes, que ce soit Françoise, que ce soit Céleste Albaret dont on en parlait, en réalité, que ce soit la bourgeoisie décadente et ridicule de Verdurin ou la grande noblesse, les Griffules, les Guermantes chez lui, etc., c'était une manière de s'approprier cette mémoire-là. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement significatif dans cette compétition qu'il nourrit avec le christianisme, non seulement dans sa révolte contre le projet de fermer les cathédrales, mais aussi dans son idée que l'art de l'écrivain équivaut à un rite chrétien qui s'appelle la transsubstantiation.
Alors, qu'est-ce que c'est la transsubstantiation?
Alors, la transsubstantiation, c'est un terme qui renvoie à l'Eucharistie, où le pain et le vin, par la consécration de la messe, ne sont pas signes, ne sont pas des figures, mais ils représentent, ou plutôt ne représentent pas, mais convertissent réellement, apportent réellement la chair du Christ. Et celui qui communie mange et boit le Christ. Donc, c'est une présence réelle. Le pain et le vin sont transformés en présence réelle. Et l'écriture, telle que Proust l'imagine,
oui,
voilà, et la vie, serait une sorte de transsubstantiation eucharistique qui transforme les mots en, dit-il, qualité de la matière et de la vie. Donc, les mots deviennent la vie elle-même. En écrivant les mots résorbent les qualités de la vie. Et nous avons vu avec la Madeleine comment se fait cette résorption. Le mot Madeleine, qui peut renvoyer à une friandise ou à une sainte, par la sensorialité qu'il y met, fait vibrer le narrateur et vous transmet cette vibration à vous.
Par l'écriture.
Par l'écriture, en lisant tout simplement dans votre livre, vous lisez ça et vous goûtez la Madeleine, mais vous êtes aussi en communion avec les saintes éventuellement ou avec votre érotisme. Vous devenez histoire et actualité corporelle, physique. Donc ceci est une, évidemment, expression métaphorique, mais ça montre que son écriture n'est pas formaliste. Elle n'est pas invention de forme, n'est pas des mots croisés ou quelque chose d'abstrait, n'est pas une philosophie.
C'est une expérience réelle.
C'est
important de le dire par rapport à l'écriture. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la phrase de Proust, voilà, de sa complexité, de sa préméditation aussi, parce qu'il avait un plan d'écriture, etc. Vous dites qu'il n'y a pas de formalisme, c'est qu'il n'y avait pas
prévu. Non, parce que cette forme s'est imposée à partir de cette expérience. Lui, il veut que sa phrase soit une transsubstantiation. Quand il écrit, il est dans la réalité, il est dans le vin, il est dans le pain, il est dans le clocher, il est dans la Madeleine, il les sent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une métamorphose, ou mieux, le terme de transsubstantiation, parce que c'est une expérience. Et il faut entendre ce mot, je suis contente qu'on termine notre traversée de Proust à travers ce mot, transsubstantiation et expérience, parce que dans la langue allemande, le mot expérience a deux significations, Erlebnis et Erfahrung, l'un qui dit changement corporel, physique, je me transforme de fond en comble, quelque chose surgit en moi quand je vois surgir un objet, quand je suis amoureux devant un coucher de soleil ou dans un état de grande détresse, je suis transformé, c'est une expérience au sens quasi mystique du terme. Et puis il y a l'expérience de laboratoire qui fait des exercices extrêmement rationnels, etc. Et Proust est constamment entre les deux, expérience vitale où tout son corps se transforme jusqu'à le sommeil profond ou jusqu'à la flagellation. Et en même temps, il a les mots pour le dire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il écrit à un de ses amis. Là, on est dans cet entre-deux, entre deux cultures, donc le juif de mère, en tout cas, et catholique de père, et qui est ni l'un ni l'autre, écrit une lettre à Lucien Daudet, qui était le fils de Léon Daudet, le grand parrain à l'époque de la littérature française. Il écrit une lettre dans laquelle il évoque la transsubstantiation, et il dit que l'écriture telle qu'il la conçoit est une transsubstantiation. Et dans une autre lettre,
il prononce le mot lui-même.
Et dans une autre lettre à Daudet, il prétend même qu'il a fait sa première communion pour montrer que vraiment il sait de quoi il parle, c'est un vrai catholique. Il tenait à ce qu'on le reconnaisse comme faisant partie de cette culture.
Pour finir, il nous reste quelques minutes. Marcel Proust, sa personne, est d'une complexité assez inouïe. Donc, on le disait, ni juif, ni chrétien. Il y a quelque chose d'un petit peu flou qui déstabilise aussi peut-être les lecteurs. C'est un écrivain, finalement, sur lequel on ne peut mettre aucune étiquette.
Oui, parce que nous ne sommes constitués avec des disciplines, littérature, linguistique, philosophie, des genres romanesques, le récit, le souvenir et la poésie. Alors que c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme à la culture. Mais à partir de là, il a traversé les genres. Et ce qu'il nous faut lire dans cette écriture, c'est une expérience. Au sens où quelques écrivains de la modernité ont repris le terme. L'expérience intérieure, selon Georges Bataille. Littérature et expérience des limites, selon Solers. Et plus encore, c'est une expérience qui bouscule l'opinion et les mondanités. Il bouscule même l'amour. L'amour, les clans, les sociétés, vos philosophies, tout ça, c'est du semblant. Vous êtes des marionnettes. Ce qui compte, c'est la vibration, la pulsation du temps, à condition que vous puissiez l'incarner. Après Proust, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Les surréalistes étaient dans l'amour fou. Ensuite, il y a eu littérature engagée. Mais pour chacun, il y avait une idole, l'amour ou la philosophie révolutionnaire. Proust aurait ri d'un rire sarcastique de tout ça. Oui, vous en êtes, aurait-il dit. Mais tout en étant, essayons de pulvériser, de transsubstantialiser. Qu'est-ce que vous en recueillez dans votre expérience? Moi, je l'ai fait et je le communique à mes lecteurs. Mais est-ce qu'on peut encore le lire? Est-ce que la lecture est encore une expérience? C'est la grande question qu'il nous pose.
Il faudra qu'on y réponde un jour. Merci beaucoup, Julia Kristeva, d'avoir passé cette semaine avec nous. Votre livre, Le Temps Sensible, est publié chez Gallimard, aux éditions Folio. Et le très beau Pulsion du Temps, apparu aux éditions Fayard. La semaine prochaine, Michel Herman sera à mes côtés et nous parlerons des lieux dans la recherche. Bon week-end.
Merci Laura El Maki, un état avec Proust, c'est lundi avec Michel Herman, lecteur de Proust.